Sur ce coup, le télétravail va changer absolument tout. Je pense que les gens qui ont découvert comment travailler autrement vont maintenant s'interroger sur pourquoi aller au bureau demain matin. Les choses vont changer à une vitesse absolument considérable sur l'utilité d'un bureau.
Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 104. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2020, je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Bloch. Philippe est un ami, est un conférencier de grand renommée, animateur de plateaux de grands médias, notamment BFM Business, et auteur de 7 livres, avec un nouveau qui arrive prochainement. Dans cette conversation avec Philippe, nous discutons de l'avenir du travail, l'évolution de la vie au bureau, et comment les leaders du business et les entrepreneurs devraient s'adapter. On touche également à l'avenir des conférences et l'adaptation nécessaire pour les conférenciers. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Philippe Bloch, quel plaisir de t'avoir sur mon show. Ça fait longtemps qu'on se connaît et j'ai toujours apprécié ton caractère, ta personnalité et ta belle production de livres. En tes mots, comment tu te présenterais ?
Alors, pour faire court, puisque ça fait quand même pas mal de vie professionnelle, j'ai toute ma vie, en fait, été à la fois un entrepreneur et un observateur des boîtes. Un peu par hasard, le métier d'observateur, parce que je démarrais dans la presse à l'Expansion, qui était à l'époque le leader de la presse économique française comme éditeur du magazine. Et tu sais que les entreprises qui ne se réinventent pas sont mortelles. L'entreprise a disparu. Je n'y ai passé que 3 ans, mais dans cette période-là, j'ai écrit un premier bouquin très jeune, en fait, qui s'appelle Service compris, qui a été un énorme succès sur le thème de la qualité de service. On n'appelait pas encore ça l'expérience client à l'époque. Ce qui a fait de moi effectivement un conférencier comme toi. J'ai fait des milliers, enfin plusieurs milliers.
Et au passage, c'est quand même le titre de livre que je guette le plus. Je trouvais vraiment, mais vraiment canon.
Il était simple. Il était très, très simple. Et c'est peut-être ça qui a fait marcher d'ailleurs, comme souvent les idées simples. Et puis après, effectivement, je suis devenu entrepreneur plusieurs fois. Première boîte dans le métier de la formation et du conseil. La plus belle aventure, c'est Columbus Café, qui a été en fait sur le modèle de Starbucks en 1994, l'envie de réinventer les cafés français, de me réinventer moi-même d'ailleurs, de mettre les mains dans le moteur. Expérience passionnante, difficile, horriblement difficile, qui explique peut-être, on en parlera, pourquoi je suis censé être un optimiste, parce que dans l'adversité, on le devient forcément, et quand on l'est avant et qu'on attaque l'adversité, on s'en sort plus vite. Belle aventure qui s'est terminée malgré moi, puisque j'ai été, je ne m'en cache pas, viré par mes actionnaires. Quand j'ai commencé à grandir sans capital, avec l'argent des autres, et ben parfois on se retrouve à poil, c'est une histoire bien connue. Mais aucune revanche et aucune amertume. C'est une belle boîte aujourd'hui qui a plus de 200 points de vente, dont je reste actionnaire même si je ne m'en occupe plus, même si je suis très dilué, mais ce n'est pas là le sujet, parce qu'elle m'a tellement appris que du coup j'ai essayé ensuite de faire d'autres choses. J'ai passé beaucoup de temps à écrire plusieurs bouquins comme toi, j'en ai écrit bientôt 8e d'ailleurs, sur plein de sujets, l'esprit d'entreprise, l'innovation, l'optimisme, on en parlera peut-être. Et puis tu sais que je suis aussi un peu un homme de radio et télé, et toi tu fais beaucoup aussi de broadcasts et de podcasts. J'ai animé pendant 15 ans une émission sur BFM Business consacrée aux entrepreneurs tous les week-ends. Et aujourd'hui, effectivement, je partage ma vie entre des conférences, des animations d'événements, des bouquins, et puis des startups dans lesquelles j'ai mis aussi quelques sous, sans toujours beaucoup de succès d'ailleurs, mais avec beaucoup de plaisir à accompagner ces entrepreneurs.
Quelque chose qui est vraiment, je pense, qui nous lie quelque part, c'est qu'on a aussi fait des choses. C'est parce que quelque part, le consultant qui dit qu'il n'y a qu'à à faire ça, sans avoir jamais fait lui ou elle-même, Ça rend un peu vide le conseil qui suit. Sur Columbus Café, je suis intrigué parce que je connais beaucoup plus l'histoire du côté Starbucks. Le Columbus Café, donc 94, tu lances ça. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu en as appris de l'histoire avec ça.
Pour faire très court, je tombe amoureux d'une idée simple que Howard Schultz, que tout le monde connaît aujourd'hui, avait dégoté en Italie, et les cafés français, je l'ignorais puisque je m'en fichais à l'époque, étaient en train de mourir les uns après les autres parce qu'ils n'avaient été, c'était pas réinventé. Et l'idée de cette nouvelle forme finalement de convivialité m'a intéressé. Et on est allé très vite dans un concept qui était plutôt réussi, mais en faisant 3 erreurs majeures. La première, c'était trop tôt. Tu sais qu'en matière d'innovation, timing is key. Trop tôt, c'est trop tôt, et trop tard, c'est trop tard. Et là, clairement, les gens n'étaient pas prêts, le marché français n'était pas prêt à du café emporté avec tout ce que suppose ce concept qu'aujourd'hui est devenu complètement une pratique courante.
À l'époque, ils considéraient presque gauche. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait pas ça.
C'est impossible. Enfin, tu sais, on va bien évidemment expliquer pourquoi ça ne marcherait jamais. Mais aujourd'hui, tu te bats dans un aéroport français. Enfin, avant, quand il y avait encore des aéroports et quand il y avait encore des gares dans lesquelles on pouvait se rendre, tout le monde a son cappuccino à la main. Donc, c'était trop tôt, c'était trop vite. C'est-à-dire que les gros sont lents. Je pensais que les gros acteurs du marché repéreraient cette initiative et la copieraient. Or, j'avais le temps, puisque ça a mis 10 ans avant qu'elle ne soit copiée. Et puis, on s'est trompé. Tu sais que l'emplacement, location, c'est la
clé du commerce.
Et du coup, on s'est trompé là-dessus. Donc, au bout d'un an, on était mort. Sauf que le rêve était intact. Et c'est là le message que je veux adresser aux entrepreneurs en ce moment. C'est que quand il y a un grand rêve et beaucoup d'énergie, on arrive à surmonter des obstacles absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un rond, et là aussi j'ai appris un truc phénoménal, c'est quand on n'a plus un rond, là, l'imagination reprend le pouvoir. Et comme ça va beaucoup attendre beaucoup de nos amis peut-être qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, ne soyez pas inquiets du manque de moyens qui va arriver, vous allez voir que vous allez devenir infiniment plus créatifs.
C'est certain, il y aura moins de moyens à l'avenir.
Pas de moyens.
Oui, alors Philippe, tu es connu pour être quelqu'un qui est optimiste. Et est-ce que c'est quelque chose qui est génétique, inné en toi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à vouloir être ?
Non. J'ai rien appris. Je suis incapable de te dire si c'est génétique. Je ne le pense pas parce que j'ai été, moi, éduqué dans une famille où ma mère était passait son temps à me dire ne sois jamais entrepreneur parce que mon père avait une petite boîte qui était malheureusement sur un marché déclinant et qui, du coup, a disparu avec lui quand il a pris sa retraite. Donc, je n'ai jamais été encouragé par ça. Non, moi, je crois que vraiment mon élément fondateur, c'est la difficulté dans laquelle je me suis retrouvé avec Columbus face à un grand rêve que j'avais qui était intact. Et c'est ça que j'ai appris, au fond. C'est que tant qu'il reste une lumière qui brille, si tu veux, sur ton projet, c'est-à-dire quand tu as eu un grand projet, une de mes obsessions, c'est d'éliminer de la langue française l'adjectif petit, le petit café, le petit mail, le petit.
Oh là là, je connais.
La petite club, le petit restaurant. Je ne supporte pas.
Petit gars.
C'est insupportable. Alors, c'est vrai qu'il y a les grandes vacances en France, ça on aime bien, mais il y a petit tout le reste. Et mon obsession, c'est de dire aux gens, quand on pense petit, on n'arrive à rien. Et tu le sais. C'est-à-dire que des petits rêves n'amènent pas à grand-chose. Tu sais, moi, j'avais quand j'ai créé Columbus, j'avais une seule phrase. C'était un peu le projet de Columbus. C'était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ben, quant à ce rêve de vendre un bout de bonheur aux gens, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la raison d'être, ce grand débat des entreprises avant Covid, on ne sait pas si elles vont le conserver, j'espère que oui. Mais globalement, c'est cette énergie qui fait grandir et qui rend optimiste. Et puis tes échecs surmontés, finalement, te font comprendre que la ténacité vient à bout de tout. Tu sais, j'avais acheté, je le raconte souvent ça, mais j'avais acheté dans un aéroport américain un de ces petites pierres en plastique avec un truc à la con mais qui te fait penser tous les matins au sens de la vie, et il disait en fait winners never quit et quitters never win, et je crois que c'est ça en fait qui fait l'optimisme. C'est pas de nature, je crois pas que ce soit par nature, je crois que ça s'apprend. C'est comme le bonheur en fait, c'est un truc, une décision qu'on prend le matin en fait.
J'adore ton rêve aussi, ça, c'est très parlant. Et puis, en fait, ça s'est exprimé à travers Columbus Café, mais tu l'as quand même gardé parce que tu rayonnes quand même et tu as toujours envie de donner du plaisir aux gens.
C'est un bonheur. Bah, tu sais, on partage tous les deux un métier qui est celui de conférencier, qui va évoluer d'ailleurs de manière, on va peut-être en parler ensemble, tout le monde s'interroge sur l'avenir de cette activité aujourd'hui, quand on ne pourra plus être ensemble. L'autre jour, j'ai testé, comme tu l'as sans doute fait, je sais que tu réponds à beaucoup de webinars, etc., toi-même aussi. Et je me dis, qu'est-ce que c'est triste d'être face à un écran sans avoir ce public à qui on peut donner de l'énergie et récupérer leur énergie, la canaliser, la leur redonner, voir à quel moment ils décrochent et les rattraper, etc. C'est un des trucs qui va être terrible et qu'il va falloir qu'on arrive à gérer, d'ailleurs, dans nos métiers. Mais donner un petit peu d'énergie à des gens qui en manquent, c'est quand même un vrai bonheur. Mais ça, c'est le job des entrepreneurs. C'est l'entrepreneur, il a quand même une caractéristique majeure. C'est en fait son job, c'est d'importer des emmerdes et d'exporter de l'enthousiasme. C'est ça notre métier d'entrepreneur.
Ouais.
Et ben, c'est ça qui nous donne notre énergie, parce que donner cette énergie est juste génial.
Alors, parlons-en de l'avenir du conférencier, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui me touche particulièrement. On est face à l'écran. Évidemment, demain, il n'y aura pas que l'écran, parce qu'en fait, ça va arrêter à un moment donné. Mais comment est-ce que tu imagines l'avenir ? Est-ce qu'on va être Forcé d'avoir la moitié de la salle toujours vide, est-ce qu'on ne pourra plus jamais rentrer et toucher les gens? Qu'est-ce que tu imagines pour les speakers de l'avenir?
Écoute, je ne sais pas. Moi, je, comme toi, je connais beaucoup de conférenciers un peu poids lourds du circuit avec lesquels on échange, etc. Personne n'a de conviction définitive sur rien puisque de toute façon, on n'a pas de visibilité. Tout le monde se pose le problème, et notamment ceux qui sont beaucoup sur l'affect dans leurs conférences, sur l'émotion, sur comment est-ce qu'on va pouvoir prendre du plaisir. Parce que c'est un métier, tu sais, moi je pense, ça paraît être fou, mais je pense que j'ai fait plus de 3000 interventions dans ma vie. Et chaque fois, je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter, c'est pas possible que ça continue éternellement. Et surtout que je n'ai jamais rien demandé, enfin, les gens m'ont toujours appelé, comme toi probablement. Donc je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et je me suis toujours dit, ça va s'arrêter quand on n'aura plus envie, parce que tu ne prendras plus de plaisir.
Parce que là, ça se sentira.
Ouais. Et là, ça se verra tout de suite. C'est que si tu le fais pour l'argent, ça n'a aucun sens. Et quelque part, ma crainte aujourd'hui, ma véritable interrogation sur l'avenir du métier de conférencier sur ce genre dans ce genre de contexte, c'est que s'il n'y a plus le plaisir, si on ne donne plus ce plaisir, en fait, je ne vois pas comment ça peut encore fonctionner. Et je ne pense pas qu'on le retrouvera, même si on fait des améliorations sur la partie digitale dans ce domaine-là. Mais je crains vraiment, si tu veux, que le plaisir que nous prenions avant ne perdure pas. Et du coup, en même temps, je me dis qu'il risque plus probablement d'y avoir un moment où on va faire autrement, on fera des webinars, on fera des trucs. Tu sais, moi, un des pires souvenirs de ma vie, c'est qu'en termes de conférencier, c'est un jour où j'avais un micro, j'avais face de moi des gens avec des casques parce qu'on était dans une salle un peu bruyante. Donc, en fait, on avait autour de moi, il y avait les mecs qui vendaient leurs trucs sur des stands. Et je parlais à des gens qui me regardaient comme des cons, comme avec leur casque. Et
ils t'entendaient. Ils m'entendaient bien.
Et aucun de mes trucs habituels qui fonctionnent ne marchait parce qu'on n'avait pas ce truc de l'humain, si tu veux. Mmh. Et quelque part, je pense que intuitivement, à un moment, heureusement, il y aura un vaccin. On va recommencer à se parler, à se voir. On sortira de ce truc-là. On va vaincre cette saloperie de Covid-19. Donc, je fais plus le pari qu'entre-temps, on aura des moments qui seront intéressants, mais moins intenses. Mais qu'à un moment, on continuera. Et que malgré tout, sur ce métier-là, la technologie ne remplacera jamais cette espèce d'énergie, d'effusion, de bonheur, de se foutre sur la gueule, d'être interrompu, de convaincre, de revenir. Bon, et ben voilà, on va attendre un petit peu. Il faut faire le dos rond.
Moi, en t'écoutant, j'ai envie de penser qu'en étant avec l'imagination dont tu as parlé au début, on va utiliser l'imagination pour améliorer, nous, confinés dans une boîte qui s'appelle la maison aujourd'hui, mais demain, l'écran. Et si j'arrive à transmettre des choses mieux à travers ce système, combien mieux je peux le faire une fois que je reviens sur scène, où je peux redéployer le contact, le mouvement qu'on aime bien faire. Et à la fois, je me suis dit, tout comme le problème de travail à distance, il y a aussi un problème avec l'ego. Et je parle pour moi, car en fait, il y a un côté plaisir à l'ego. Quand à la fin du discours, il y a beaucoup d'applaudissements. Enfin, il y a ce côté…
C'est ton énergie, cette énergie qu'elle te donne.
Voilà. Et un des plus grands problèmes que je perçois dans un transfert au travail à distance, c'est l'ego du patron qui n'a plus son bureau énorme, qui est de prestige, où il n'a pas ses gus autour de lui en train de dire « oui, monsieur », et que tout d'un coup, lui, il ne va être pas content. Je dis « lui » parce que souvent, c'est un « lui » qui a généralement en plus cette forme d'ego. Et que, donc, en parlant en tant que conférencier, je pense que j'ai une certaine humilité, mais je sais que j'ai un ego fort je suis très de l'avant et je pense que je vais devoir aussi m'arranger avec mon propre ego.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis moins inquiet que toi sur l'ego du président de boîte dont tu parles là, parce que je pense que sur ce coup, le télétravail va changer absolument tout. Je pense que les gens qui ont découvert comment travailler autrement vont maintenant s'interroger sur pourquoi aller au bureau demain matin. Les choses vont changer à une vitesse absolument considérable sur l'utilité d'un bureau. Ça avait déjà démarré. Tu sais, moi, j'avais déjà participé à des débats autour de l'avenir d'un siège social. À quoi va servir un siège social demain? Au moment où on commençait à se dire, il y a de l'espace de coworking sur lequel on peut regrouper des talents de nature différente pour innover, faire des projets collaboratifs, etc. Et il me semble que demain, le management va évoluer de manière considérable, parce qu'effectivement, le management à distance n'est pas le management de la proximité, que les bureaux vont être des lieux d'échange, de retrouvailles, de créativité. On n'aura plus le même rapport. Je pense que ce qui a eu du mal, je pense que ça va être une espèce de tire-bouchon sur certains blocages, en fait, cette explosion du télétravail, cette envie que les gens vont avoir de ne pas revenir vivre dans les grandes villes. Tu sais que je suis convaincu qu'il va y avoir une mutation du marché immobilier en France phénoménale. On voit en ce moment l'explosion de consultations sur les sites internet, des gens qui cherchent des petites maisons avec jardin, accès aux soins et au débit dans un petit patelin sympatoche de France. Ils n'auront aucune envie de se retrouver dans des villes surpeuplées, verticales, minérales, polluées, à faire 2 heures de bouchon le matin pour voir des gens de façon dont ils peuvent très bien se passer, des réunions inutiles, des séances de brainstorming interminables et chronophages. Il va y avoir des mutations terribles et je pense que le management va évoluer de manière absolument considérable.
Il y a un truc à l'intérieur de ça, donc j'ai une petite histoire, c'est un copain qui me raconte, il vit à côté de Brighton en Angleterre, et il a parlé du fait que lui et sa femme travaillent leur jardin, et c'est vrai que je l'écoutais avec jalousie, là, au confiné, à Londres, dans un appartement bétonné. Je pensais à donc l'attractivité d'une grande entreprise qui, par le passé, avait voulu, comme des grandes boîtes de conseil ou de banque, avoir des sièges avec des adresses prestigieuses, la rue Royale, et enfin Madeleine, ceci, cela. Et puis en plus, je viens de mon bureau et il y a quelqu'un qui me salue, qui me connaît, et puis après il y a l'équipement, et puis l'aménagement, le café à côté, enfin les jetons, enfin tous ces éléments qui font, et puis pour certains aussi, la voiture, le chauffeur qui accompagne les grands PDG. Et tout ça, ça va disparaître. Donc, comment est-ce qu'une grande entreprise va garder le prestige de la grande marque, parce qu'on connaît bien comment les grands groupes jouent là-dessus, car quand on n'a pas plus de bureau, l'identité va s'effriter.
Non, elle ne va pas s'effriter parce qu'ils vont garder des bureaux. Ce n'est pas la fin des bureaux, c'est la fin de l'usage précédent des bureaux dans des open space où ils vont tous avoir peur de se cracher sur les uns sur les autres avec des postillons pleins de virus, etc. C'est la fin de bureaux dans lesquels tu dois aller alors que tu travaillerais mieux loin de ces bureaux. C'est la fin c'est le début des espaces modulables. Si tu le disais, par exemple, on va retourner au bureau pour disposer d'équipements qu'on n'aura pas à la maison. Tu sais, je lisais l'autre jour un truc marrant, c'est que l'environnement des startups a influencé l'immobilier de bureau en faisant venir un peu la maison chez eux, c'est-à-dire en mettant des poufs, des canapés, des bibliothèques, un endroit cosy, etc. Et on a vu tous les grands groupes, que ce soit à Londres, à Milan, à Paris, en train de devenir des endroits très cosy, etc., pour garder les meilleurs éléments, etc. Ben, on peut se dire que par une espèce d'inversion un peu étrange, le bureau va venir à la maison maintenant. C'est-à-dire qu'on va commencer à installer dans nos appartements des espaces. On se le disait tout à l'heure, je disais que la qualité de ton image était excellente. Et tu m'as dit, bah, attends, c'est pas hasard, je me suis équipé, je vais me mettre un fond vert, je vais aménager autour de moi avec les meilleurs outils. J'essaie d'apprendre aux gens l'importance de l'image lorsqu'on travaille comme ça. Tout ça va se modifier à une vitesse absolument considérable. Je pense que ça va être assez long de voir cette mutation. Mais les entreprises, tu sais, la culture d'entreprise, elle ne passe pas forcément par des bureaux. Moi, il y a un truc qui m'étonne toujours. J'ai fait l'autre jour une conférence pour Air France. Et ils m'ont appris un chiffre qui m'a fasciné. Ils m'ont dit qu'un PNC d'Air France, un personnel navigant commercial d'Air France, a une chance de revoler avec la même personne avec laquelle il vient de faire un Paris-New York ou un Paris-Moscou tous les 8 ans. Tu te rends compte, tous les 8 ans. C'est-à-dire que quand tu les vois, ces gens d'Air France, tu les sens super copains, ils se tutoient, on a l'impression qu'ils se travaillent ensemble, ils ont fait 450 fois le tour du monde ensemble, ils ne se connaissent pas. Simplement, ils ont une culture d'entreprise en commun, des valeurs en commun, un job en commun, qui est fait par du partage d'expérience, etc., qui te montre que la proximité physique n'est pas toujours le seul moyen de développer une culture. Donc, je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que les bureaux de demain sont totalement différents. Je pense qu'il est en train de s'installer quelque chose qui va être durable, qui va profondément modifier le management. Et puis, n'oublie pas que la distance veut dire contrôle ou pas contrôle, et donc confiance ou pas confiance dans un pays, notamment la France, qui n'a confiance en personne, y compris en termes de management. Donc, si tu dis télétravail, c'était ça les blocages. Hein. Est-ce que les types vont passer leur temps à s'occuper de leurs tomates et de leur jardin plutôt que de faire ce pourquoi je les paye ? qui est la nature française, de toute façon. Mmh. Je te rappelle que 80% des Français pensent qu'il faut faire confiance à personne. Donc, c'est un vrai sujet versus 80% des Suédois qui pensent à l'inverse et des Danois aussi. Donc, quelque part, on a un sujet là-dessus qui va profondément évoluer parce qu'il n'y aura pas cette mutation sans confiance. Mmh. Cette confiance, il faut qu'on l'apprenne, qu'on la réapprenne. Donc, ça va être des mutations longues, mais sur l'immobilier, je pense qu'elle va être beaucoup plus rapide, ne serait-ce que pour des problèmes d'argent et de coût de l'immobilier.
J'aime beaucoup ton exemple d'Air France avec les gens qui voyagent et donc du fait ne sont pas ensemble, mais qui arrivent quand même à percevoir la culture chez eux.
Ils ont le même ADN au fond. C'est leur métier, ils ont la même mission. Ils la vivent tous les jours dans des conditions différentes, mais c'est la même vie en fait, et ça aide énormément. Ils prolongent cette culture sans se connaître. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant comme truc.
Alors, pour avoir vécu ton expérience, qui est pour chacun un peu différent quand même, dans cette crise, tu as apporté ton optimisme, tu as élaboré un livre. Raconte-nous un peu la naissance de ton livre et le voyage que ça t'a amené à faire.
Alors, j'ai presque peur d'en parler tellement je trouve ça prétentieux de se dire qu'on peut écrire un bouquin en pleine crise. non, mais c'est vrai, parce que qui suis-je pour penser que j'ai tout compris en 6 semaines de confinement ? Ce qui se passe, c'est que tu vois, ce confinement, forcément, ou bien tu es un abruti, tu as passé tes 2 semaines ou tes 2 mois sur Netflix et Disney+, ce qui est formidable, hein, ou bien tu as un peu perdu ton temps quand même, parce que je pense qu'il y avait matière à faire ça, à vivre cela autrement. Et je pense que ceux qui s'en sortiront sont ceux justement qui ont pris un peu le temps de réfléchir. Je n'avais que ça, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ressens de tout ça ? Et puis comme effectivement, quand je suis ou énervé ou un peu inspiré, et comme toi et moi, on aime écrire, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de lister un petit peu ce qui me semble être les grandes questions que cette épreuve, je ne sais pas s'il faut l'appeler crise, épreuve, catastrophe, effondrement,
tout enjeu en tout cas,
enjeu énorme, nous pose comme question fondamentale, en se disant, en partant du principe que c'est soit une des épreuves les plus dévastatrices qui nous soit jamais arrivée ou refondatrice. L'optimiste, forcément, il a... Tu sais, l'optimisme en période de pandémie, enfin, les pandémies sont des adversaires redoutables pour les optimistes. Hein. C'est que globalement, c'est très, très, très dur de dire aux gens que ce sera mieux après. Pour autant, je pense que ce sera mieux après. Sauf si on est trop con, si je peux me permettre. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pense que si on arrive tous à se faire collectivement et personnellement les choix sur toute une série de sujets, et ils sont à la fois politiques, ils sont économiques, ils sont personnels, ils sont sociétaux, on peut recréer un monde à une échéance de quelques mois et quelques années qui sera vraiment fondamentalement différent et qui pourrait être mieux. Donc c'est ça que cette dose-là d'optimisme que je revendique, et c'est ça qu'essaie de faire le livre, que j'essaie de sortir assez vite, parce que je vais le faire sortir le 3 juillet.
Félicitations, Philippe.
Bon, non, c'est peut-être,
quand même.
C'est peut-être complètement con de ma part de penser que j'ai même suffisamment de quoi alimenter la réflexion des gens, mais j'essaie d'avoir un regard à la fois réaliste et positif, parce que je pense que si, parce que globalement, soyons clairs, là, on a eu la crise sanitaire, ok, elle est difficile, bon, on s'en sort bien, heureusement, parce qu'avec tous les sacrifices qu'on fait, heureusement qu'on s'en sort bien, et je ne dis pas ça évidemment par rapport aux quelques dizaines de milliers de morts abominables, je respecte tout ça éminemment. Moi, je considère que ça, maintenant, ça suffit, qu'il faut repartir bosser et qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de tout. Enfin, je pense qu'on est en train de se transformer en trouillard convulsif, et que si on commence à ce point à avoir peur de l'avenir, de l'autre, de toucher un bouton de porte, etc., on va finir complètement dingue, et que le coût de ce confinement va être infiniment supérieur, et je pense qu'on partage ça aux effets collatéraux de ce confinement, et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on reparte à la guerre, mais la guerre va être sauvage. Ça va être terrible économiquement, terrible. Ça va être un champ de ruines. Et heureusement que les entrepreneurs ont cette capacité, cette résilience qu'ils ont toujours démontré d'ailleurs. Et d'ailleurs déjà ces capacités disruptives, on a vu des choses extraordinaires se mettre en œuvre depuis 2 mois, ne serait-ce que la façon de faire tourner un pays qui est à l'arrêt en n'étant ni mort de faim, est extraordinaire globalement. Donc moi je suis très confiant, plus dans la capacité des entrepreneurs à sortir de cette crise malgré l'adversité que dans les Français en général à sortir de cette crise. Parce qu'on est quand même un peuple globalement dépressif. Et du coup, je pense qu'on a quand même un peu besoin en ce moment d'entendre que c'est possible. Parce que globalement, quand on ouvre la télé, et qu'un truc qui me frappe, tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, qu'on voit en gros 20 médecins réanimateurs sur les plateaux télé pour un seul économiste. C'est quand même un vrai signal. C'est-à-dire que personne ne parle du dégât économique et qu'on passe son temps à avoir des avis contradictoires de gens qui finalement avouent qu'ils ne comprennent rien à ce virus les uns les autres, qui se contredisent tous, ça nous pose quand même de vrais sujets. Donc quelque part, voilà, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas 15, j'en ai 14 en fait, je regarde mon truc, j'ai 14 chapitres qui sont 14 trucs sur lesquels on a 2 choix. plus ou moins, ceci plutôt que cela. Et c'est comme ça que va être construit le bouquin, en fait.
Quand j'écoute ce que tu dis, un sur les médecins, ma sœur et son mari sont médecins aux États-Unis, et je parle avec eux, évidemment, eux, ils connaissent beaucoup plus la santé que moi, mais on ignore complètement l'impact sur les médecins qui ne sont pas au front. Enfin, aux États-Unis, j'ai entendu un chiffre, mais je n'ai pas vérifié, il y a 50 000 médecins au chômage aux États-Unis.
Mmh. Ah oui, je ne savais pas.
Et puis, bon Dieu, des nombres d'infirmiers et toutes les autres personnes non critiques à ce virus. Oh là là, on commence à re-réfléchir. Bon, aux États-Unis, il y a plein d'autres problèmes.
Oui.
Et je voulais te demander, Philippe, tu as commencé avec une réflexion sur comment toi tu sentais les choses. C'est là où tu as commencé à faire de l'observation à partir de toi ou c'était simplement tes observations d'autour?
Non, c'est moi aussi. Enfin, il y a un chapitre qui est, je ne sais pas comment je l'ai appelé, mais courir après le temps versus le temps retrouvé.
Mm-hmm.
Moi, j'ai passé ma vie comme un con à prendre 120 métros, 120 avions par an, TGV le matin à 6 heures du matin, à courir après je ne sais pas quoi, finalement, globalement. Et tout d'un coup, pendant 2 mois, je me dis, mais finalement, la vie peut être différente, à un rythme différent. Est-ce que le temps que je n'ai pas consacré à d'autres choses ou à d'autres gens ou à d'autres activités, ne mérite pas d'être repensé. Ce n'était jamais arrivé. Avant, les gens, quand j'entendais parler de décroissance, ils m'énervaient, les gens qui prenaient la décroissance, un peu des idéologues de la décroissance, des objecteurs de croissance, je trouvais ça ridicule. Là, je me dis quand même, on vient de vivre là 2 mois, en gros, où on n'a rien consommé. Est-ce qu'on a moins bien vécu? Est-ce que moi qui, comme un couillon depuis à peu près 10 ans, chaque année, je suis fier d'acheter le nouvel iPhone en septembre pour montrer que j'ai le dernier iPhone, est-ce que ce n'est pas la plus grosse connerie qui soit imaginable, sans devenir un écologiste absolument forcené? Est-ce que ça méritait d'enlever toutes ces matières premières de la Terre pour construire un nouvel iPhone avec quelques pixels de plus sur mon appareil photo? C'est des trucs que jamais, jamais, je m'étais posé ces questions. Tu vois, il était temps que je m'y mette, hein, à mon âge. Mais quelque part, ce sont des vrais sujets. L'histoire de te dire, est-ce que j'étais, tu le sais, parce qu'on en parlait un peu hors antenne ensemble, j'étais contraint de me déplacer de Paris pour s'occuper de ma mère qui est malade et qui est en province, dans le sud de la France. Ça fait longtemps que Paris me sortait par les yeux. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune envie d'y retourner. Donc, ce que j'ai ressenti des bien-être d'une vie ailleurs, autrement, avec aujourd'hui toute la technologie qui nous permet de visiter une magnifique exposition au Louvre sans avoir les gens qui sont les uns sur les autres, me fait vachement réfléchir. Est-ce qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe? Évidemment, il faut plus d'Europe, mais pas la même. Moi, je n'ai pas envie, après cette crise, d'être dans la même Europe que Viktor Orban, qui a profité du fait qu'on avait le dos tourné pour devenir un fasciste en Europe et partager la même Europe que lui. Je n'ai pas envie de ça. Est-ce que la santé ne fait pas partie aujourd'hui des prérogatives de l'Europe? Est-ce que c'est ça qu'on veut demain? Et en laissant justement la santé entre les mains de nos amis chinois, on n'en a pas envie non plus. Je me dis qu'aujourd'hui, on a beaucoup critiqué les médias parce qu'ils ont été très anxiogènes. Notamment les chaînes info qui ont participé à ce côté abominablement anxiogène, ce décompte mortifère des décès tous les jours, etc. Mais je me dis que je préfère quand même ça que les fake news qui créent du populisme, parce que malgré tout, informer, c'est un métier, et donc il faut qu'on fasse le choix de nos sources d'information à l'avenir, parce que à force de raconter n'importe quoi sur... et à force d'ailleurs d'insulter la presse, regarde à quel point Donald Trump avec... en insultant à la fois les scientifiques et les médias depuis des années, est en train de tuer la démocratie et de générer du populisme américain plus fort encore qu'il n'existait. Ça, c'est un choix. Check news ou bien real news, c'est un vrai choix qu'il faut qu'on fasse dans nos vies personnelles. On dit la mondialisation, la relocalisation, tout ça, il faut arrêter de mettre tout ça chez les Chinois, les esclaves du monde, etc. Ok, fine. Mais à ce moment-là, on aura des PC qui vont valoir 5 000 $ au lieu de 1 000. Est-ce qu'on veut ça? J'aimerais bien ça, mais il faut qu'on l'assume. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être qu'on utilise notre temps et notre argent différemment. Tu vois, donc, c'est à la fois, tu me disais comment c'est venu, c'est beaucoup de ce que toi et moi, on a passé notre temps probablement à lire, à observer, à écouter, à regarder qui dit quoi. Et je me suis fait un peu, c'est pas mon job de développer mes convictions à moi, mais quelque part, sur toutes ces questions, moi, elles m'interpellent en tant que citoyen. Et je me dis... C'est ça que j'ai envie de partager. Je ne prends pas position, j'offre juste une analyse sur chacun de ces sujets, sur au fond vers quoi on peut aller. Alors j'ai une position dessus, évidemment, mais c'est pas l'objet.
À la fois, donc, j'espère qu'il y a un grand changement. Et puis comme toi aussi, j'ai pensé à ça même avant qu'on y arrive. C'est le sujet de mon prochain livre, mais qui sortira après le tien, alors que je l'ai commencé bien avant. Ça, c'est l'avis d'éditeur anglais, là.
Tu devrais t'auto-éditer comme moi, c'est plus
rapide. Oui, j'ai fait l'expérience et pour une raison, j'ai décidé de me faire éditer à nouveau. C'est que on sait qu'aussi on a un vrai problème par le passé dans le capitalisme et la gestion des budgets. Et donc, avec le vieillissement des populations, l'équation nous a amenés à devoir continuer le progrès pour pouvoir nous payer, nous les vieux, notre retraite, car il y a moins de jeunes, parce que nous avons décidé d'avoir moins de jeunes. Donc, le modèle économique derrière ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Je voulais juste revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure, qui est sur le sujet de les entrepreneurs sont plus résilients. Quand je pense à certains patrons que je connaissais bien, ils sont un peu forcenés, on va dire, aller de l'avant, allez, on y va. Ils ont été, on va dire, façonnés de cette manière. Et je ne suis pas sûr que ça va tomber sur les bonnes oreilles, la manière qu'ils vont redire, écoutez, on y peut, on y va, on y croit. Parce qu'en fait, eux, ils sont payés par les actionnaires pour la réussite de la boîte, mais le ressenti a une vision, une mission, une raison d'être plus que juste payé pour avoir un actionnaire content ou contente quand il s'agit de ma boîte avant, il ne va pas vraiment comprendre. Le point clé que toi, tu as dit, c'est « je me suis retourné sur moi pour ressentir moi ». Permettre ce côté perso, que j'ai des vulnérabilités, que moi aussi, je n'ai pas aimé cette période, moi aussi, je pense à autre chose, et que juste vendre des boulons et des shampoings, ce n'est pas aussi important que ça.
Alors, ouais, moi, je vais te dire un truc. Je pense qu'effectivement, le moteur du fric ne fonctionnera pas très bien dans cette relance et dans cette reconstruction. Ce n'est pas ça qui va faire revenir les mecs. Je pense qu'effectivement, on a vécu des choses intenses. Ce débat autour, tu sais, de ce qu'on appelle maintenant partout ces héros du quotidien, ces métiers invisibles, ces gens sans lesquels on n'aurait pas pu faire ce qui a été possible, c'est-à-dire survivre simplement, va rester longtemps. C'est probablement une des choses qui risque de disparaître vite, si on n'y prête pas attention en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense que ça va être le métier des entrepreneurs de ne pas lâcher la pression là-dessus, parce qu'on a beaucoup entendu dire qu'il faudra mieux les rémunérer, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Dans 6 mois, tout le monde va dire, oh, ça va, ils disent, non, c'est pas la peine, on va pas s'emmerder, ils vont continuer à nous livrer le soir.
Et moi.
Voilà, et moi, me first, c'est vraiment, c'est tout pour moi et plutôt que tous pour un. Et globalement, je pense que ça va être le job des entrepreneurs, justement, de changer de braquet là-dessus. Je dis pas qu'ils le font tous, hein. Mais je pense qu'il va falloir qu'on tienne le discours auprès du monde entrepreneurial et des dirigeants d'entreprise, que ce monde du care qui devrait émerger maintenant, si vraiment on rentrait dans un autre monde et de s'apercevoir que les vrais métiers où on s'occupe des autres plutôt qu'uniquement fabriquer des boulons, sont fondamentaux et donnent une vraie raison d'être qu'on n'a pas besoin d'écrire sur un papier dans un poster à l'entrée du siège social de la boîte. C'est-à-dire que si on arrive à motiver les gens autour de tout ce que l'on a vu, de ce que l'homme peut apporter dans son job, dans sa posture, quelle qu'elle soit et quel que soit son métier ou sa position dans la boîte, va être absolument majeur. Il faut absolument qu'on n'abandonne pas et qu'on se dise comment est-ce que ce n'est pas juste un truc qu'on a vu à la télé pendant 3 semaines, c'est d'applaudir des gens à 20h de nos fenêtres. Et je pense que ça va quand même assez profondément changer. On s'aperçoit que les métiers, effectivement, qui tournent autour, notamment ce qui s'est passé dans ces maisons de retraite, on évoquait ça aussi ensemble hors antenne, on a des parents âgés, etc., malades, ça va changer terriblement. Cette espèce d'abandon qu'a représenté les maisons de retraite et la façon dont beaucoup de gens sont préférés partir en vacances et balancer leurs personnes âgées dans ces maisons de retraite, sans même aller voir pendant 3 mois... ce sera plus possible demain après ce qui s'est passé, après qu'on les ait fermés à clé, après qu'on ait empêché des gens de tenir la main de quelqu'un qui mourait. Enfin, si ça n'a pas heurté des gens, c'est que ou bien ils sont complètement débiles, ou bien il faudra qu'on leur rappelle, quoi. Je pense que les gens, je pense sincèrement, tu vois, qu'il y a eu une telle intensité, des choses tellement émotionnelles, tellement intenses, qu'il y a une chance cette fois-ci que on parlait de l'humain avant. On a tous vu ces grands bois dans lesquels on a pu intervenir, l'homme, human first, machin, etc. Puis on sait bien que c'était du bullshit. C'était pas vraiment les convictions profondes de ces dirigeants. Je pense que ces dirigeants-là, qui ont été aussi confinés, qui ont pu réfléchir, ils vont penser différemment. Moi, je suis assez ça va pas être simple, hein, ça va pas être facile, ça va pas être truc. Je crois à la capacité des gens collectivement à évoluer, mais il faut qu'on les accompagne. Non pas de manière doctrinaire, mais de les convaincre que le care, c'est l'avenir.
Oui, parce qu'il va y avoir plein de doutes. Le sujet qui m'intrigue, dernière question, Philippe, c'est autour de la raison d'être. Car en France, d'après ce que j'ai compris, il y a maintenant une loi pour certaines entreprises qui doivent écrire une raison d'être. C'est peut-être du bon timing. Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée et est-ce qu'il y aura une suite par rapport à la volonté derrière ça?
C'était une bonne idée si ça a convaincu trois entreprises qui n'auraient pas fait sans cela, mais pour moi, c'est une aberration totale de devoir écrire dans une loi qu'il faut une raison d'être, de la même façon qu'on a tué la France en inscrivant dans la Constitution le principe de précaution en 2005, qui est la plus grande connerie de l'histoire de l'humanité en France, enfin de l'histoire de France. Pourquoi on est devenu détroyable? On n'a jamais aussi eu peur et on n'a jamais été aussi inquiet de l'avenir alors qu'on est le pays le plus protégé au monde. Il faut arrêter les conneries. Entreprendre, aguerri, surprotégé, affaibli. Donc à partir de là, si tu veux, le principe de précaution, il faut l'oublier, c'est une connerie, il faut même l'arrêter, il faut remettre le in pursuit of happiness qui dans la constitution américaine sera beaucoup mieux que le principe de précaution. Mais si, pour cette raison d'être, sincèrement, je pense que c'est bien de l'avoir fait parce que de toute façon, ça n'enlève rien. C'est pas une obligation non plus, c'est plus une possibilité qu'une obligation quelque part, et au fond ça a au moins permis d'ouvrir ce débat et aux gens qui n'y avaient pas réfléchi d'y réfléchir. Mais cela dit, au-delà de ça, moi ça fait quand même 2 ans que dans toutes mes interventions dans toutes les boîtes de quelque taille que ce soit, dans n'importe quel métier, quel que soit le système actionnarial des entreprises, ce débat a émergé et il était posé de manière relativement sincère par des gens qui s'apercevaient bien que le pognon n'a jamais été une motivation, qu'un compte d'exploitation, que des KPI ne font bander personne, et que quelque part, quand tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, ce retour du sens, c'est même too much, tout le monde ne parle plus que du sens, etc. Mais pourtant, c'est une réalité, et notamment chez les jeunes. Tu évoquais les jeunes, et je pense qu'aujourd'hui, il me semble véritablement qu'ils ont, eux, envie de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Donc, tout ça va pousser terriblement. Donc, si c'est inscrit dans la loi, ça aide un peu, tant mieux, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui le fera faire par des gens qui ne veulent pas le faire. Je pense que c'est plutôt qu'on assiste là à une poussée sociétale très forte là-dessus, et c'est bien que ça arrive en même temps que toutes ces réflexions personnelles que chacun a pu se poser.
Parce que souvent,
on dit... elles pourront prendre de l'ampleur.
Souvent, on dit quand on a besoin de l'écrire, c'est qu'on ne l'a pas.
Oui, bien sûr.
Et je prends une dernière réflexion sur l'histoire de précaution. Le langage est structurant quand même. Et quand on va de l'avant avec du financement dans les Américains, on appelle ça aller chercher du capital aventure. Quand il s'agit de faire la même chose en France, il y a le mot risque, c'est terrible.
Ouais. Take a chance, prendre un risque. Hein.
Philippe, est-ce que quelqu'un peut te suivre, acheter ton prochain, et réserver ton prochain livre qui sort en juillet, ou bien te connecter avec toi?
Écoute, le plus simple, c'est mon site web, philippebloch.com, tout attaché, philippebloch.com. Et puis bien sûr, on peut échanger par Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, je suis partout comme tout le monde.
Mais avec grand plaisir, Philippe, merci d'avoir participé avec moi. J'ai adoré la conversation, je ne m'en doutais pas. Et je te souhaite bien bonne énergie pour la suite.
Merci, Minter. Take care.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't tell the lie. I sit here passively, hopeful your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit.
live for the challenge, so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, fit to the test. I'm a convinced man,
I'm ready, fire and arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman.
I'm a grown-up.
Me too.
Yep, me too. But you know, these days, being a grown-up can really suck.
Luckily, we're grown-ups who grew up in the coolest generation.
We had video arcades.
And also some of the best TV and movies ever made.
We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on.
Yep, Generation X.
Exactly.
And we're Gen X Grown-Up.
Every week, the Gen X Grown-Up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today.
Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts.
Or find us on our website, GenXGrownUp.com. Life sucks as a grown-up. All right, you think that was good enough?
I hope so, man. I'm tired.
Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast?
Right.
I've never done it.
No. Right.